Chapitre 40. Par la suite, Daeman n'aurait su dire quand il avait décidé de voler l'un des œufs. Ce n'était pas lorsqu'il glissait le long de la corde pour gagner le sol du cratère, car il était trop occupé à s'accrocher et à s'assurer que personne ne le repérait. Ce n'était pas lorsqu'il progressait à croupetons sur le sol fissuré du cratère, car son cœur battait trop fort pour qu'il ait le loisir de penser à quoi que ce soit, sauf foncer sur la solfatare où il avait vu les œufs en question. Il aperçut à deux reprises des groupes de Kalibani trottinant derrière les fumerolles les plus proches, et à deux reprises, il se plaqua au sol et attendit qu'ils se soient éloignés en direction du nid de cet ébos. S'il n'avait pas été vêtu de sa thermopeau, la chaleur dégagée par le sol lui aurait brûlé les mains. Une minute en position couchée et sa chemise et son pantalon commençaient à fumer. Il piqua un sprint et arriva pantelant près de la solfatare, une cheminée aux parois rugueuses sculptée dans l'omniprésente glace bleue. Daeman y trouva assez de prise naturelle pour l'escalader sans l'aide de ses marteaux piolets. Le petit cratère qui s'ouvrait devant lui, un parmi les douzaines poussant dans le grand cratère, était rempli de crânes humains. La chaleur était telle que certains d'entre eux viraient au rouge, et des volutes de soufre s'élevaient vers les hauteurs, empuantissant l'atmosphère. Mais elle lui offrait un camouflage naturel qui lui permit d'examiner de près les œufs de cet ébos. Haut d'un mètre environ, d'un blanc tirant sur le gris, il palpitait de vie ou d'énergie. Daeman en compta 27 dans ce nid. Outre l'empilement de crânes brûlants, ils étaient entourés d'une bande de substances visqueuses de couleur bleu-gris. Daeman s'avança à quatre pattes sur les crânes et, veillant à ne pas lever la tête au-dessus du cratère, examina les œufs de plus près. Leur coque était mince, tiède, presque translucide. Certains émettaient une lueur vive, d'autres présentaient un mince point lumineux en leur centre. Daeman tendit vers l'un d'eux une main hésitante. Il éprouva une sensation de chaleur, suivie d'un léger vertige, comme si l'œuf lui transmettait son instabilité via le thermogant. Il l'attrapa pour le soupeser, estima son poids à une dizaine de kilos. Et ensuite... Ensuite, il allait battre en retraite, grimper à la corde, sortir par les tunnels, regagner la crevasse de l'avenue Doménil et de là le nœud fax du garde-lion. Il devait faire son rapport à Ardis le plus vite possible. Mais il serait stupide d'avoir fait tout ce chemin, couru tous ces risques, et de rentrer sans le moindre souvenir. En vidant son sac à dos de tout son contenu, son stock de munitions excepté, il parvint à y loger l'œuf. Ce ne fut pas sans mal. Mais à force de douceur et de persévérance, il réussit à faire rentrer la base dans l'ouverture du sac, puis à refermer celui-ci. Et s'il se casse? Eh bien, il aurait un sac à dos tout poisseux, mais au moins saurait-il ce que contenait cet œuf. Mieux vaut attendre pour le casser que je me sois éloigné de cet ébos et des Kalibani. Nous l'examinerons de plus près à Ardis. Amen, conclut-il mentalement. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Bien qu'il fût toujours protégé par son masque osmotique, la chaleur et les vapeurs de soufre lui donnaient le vertige. S'il avait débarqué ici sans masque et sans thermopeau, il ne serait pas resté conscient bien longtemps. L'atmosphère de ce lieu était littéralement empoisonnée. Mais comment les Kalibani s'y prennent-ils pour respirer? Au diable les Kalibani, se dit Daeman. Il attendit que l'écran de fumée soit suffisamment épais à son goût, puis se laissa glisser le long de la paroi de la solfatare. L'œuf se déplaça dans le sac à dos, manquant lui faire perdre l'équilibre. Calme. Calme.
Dit-il, que ce qu'il est soit consacré, que tous te célèbrent, ainsi que ton royaume. Pense-t-il que ce que je hais soit consacré, qu'il soit célébré ainsi que son festin?
La voix de Caliban résonnait avec plus de force. L'acoustique de la gigantesque cathédrale amplifiait et répercutait la litanie du monstre. Ou alors, il s'était rapproché. Courant à croupetons, mettant un genou à terre au moindre signe de mouvement, Daeman franchit les 100 mètres qui le séparaient de sa corde, toujours accrochée à la corniche de glace bleue. Il la considéra sur toute sa hauteur.
Mais qu'est-ce qui m'a pris?
J'ai plus de 25 mètres à grimper. Je n'y arriverai jamais, surtout chargé comme je suis.
Il chercha une autre issue du regard, Le tunnel le plus proche s'ouvrait une centaine de mètres sur sa droite, mais l'un des tentacules de Cétébos l'emplissait sur toute sa largeur. « Il y a là-dedans une main qui m'attend. Et même plusieurs. » Un peu partout, d'autres tentacules disparaissaient dans d'autres tunnels, épais cylindres de chair grisâtre d'une viscosité presque obscène. Certains montaient jusqu'à une hauteur de 100 mètres, évoquant des lianes vivantes. D'autres tressaillaient comme sous l'effet d'une agitation péristaltique, tractées par les mains progressant à leur extrémité. Combien de mains, combien de bras possède donc cette saloperie de cerveau ?
Croit-il qu'avec la fin de la vie, la douleur cessera ? Non ! Non ! Il tourmente ses ennemis et se repaît de ses amis. C'est dans notre vie qu'il commet le pire, ne nous accorde le répit qu'à l'article de la mort. Et de toute douleur, la mort est la plus dure.
Grimper ou mourir, c'était la seule alternative. Au cours des 10 derniers mois, Daiman avait perdu une vingtaine de kilos et converti en muscle une partie de sa graisse. Mais il regrettait de n'avoir pas effectué tous les jours le parcours du combattant que personne avait aménagé au nord de la palissade et de n'avoir point soulevé de la fonte pendant ses loisirs.
« Et puis merde !» murmura-t-il.
D'un bond, il s'agrippa à la corde, l'enveloppa autour de ses jambes, tendit sa main gauche vers les hauteurs et se hissa, s'accordant une pause chaque fois que cela devenait nécessaire. Ce fut lent et douloureux. D'autant plus douloureux que c'était lent. Au bout de 7 ou 8 mètres, il sut qu'il n'y arriverait jamais. Sans doute n'aurait-il même pas la force de s'accrocher à la corde s'il décidait de redescendre. Mais il risquait de casser l'œuf s'il sautait et se recevait mal. La créature qui l'abritait serait libérée. Et Cétébos et Caliban alertés. Pour une raison incompréhensible, cette perspective le fit rire aux larmes. Tant et si bien que les lentilles de sa cagoule en furent brouillées. Il entendait son souffle éraillé dans le masque osmotique. Il sentait la thermopause s'activer pour réguler sa température.
« Reprends-toi, Daiman, tu as quasiment fait la moitié du chemin. Tu pourras te reposer dans quelques mètres. »
3 mètres plus haut, il remit la pause à plus tard. 10 mètres plus haut, même chose. S'il décidait de s'arrêter, de bloquer la corde autour de ses mains pour souffler un peu, il ne trouverait jamais le courage de repartir. À un moment donné, la corde bougea sur son piton et Daiman sentit son cœur faire un bond. Il avait escaladé 20 mètres ou presque. Une chute dans le vide et il se casserait une jambe, se retrouverait gisant sur le sol fissuré du cratère. Le piton ne céda pas. Il resta sans bouger pendant 1 minute, conscient d'être visible aux yeux de tous les Kalibani présents de ce côté-ci du cratère. Peut-être y en avait-il plusieurs douzaines au-dessous de lui, attendant qu'il tombe dans leurs bras écailleux. Il s'abstint de baisser les yeux.
Plus que quelques mètres.
Daiman leva un bras agité de tressaillement, raffermit son emprise sur la corde et se hissa, cédant de ses jambes et de ses chevilles. Encore. Et encore. Pas question de faire une pause. Encore. Et il se retrouva à bout de force, vidé de toute énergie. Il resta là à se balancer, tressautant de tout son corps, se sentant ployé sous le poids de l'œuf et de son arbalète. Il allait chuter d'un instant à l'autre. Les yeux agités de tic, Daiman leva une main pour essuyer les lentilles de sa cagoule. Il était juste au-dessous de la corniche, à 30 centimètres du but. Un ultime et impossible sursaut, et il se retrouva à plat ventre sur la corniche, se traînant vers le piton auquel il avait attaché la corde, puis gisant les bras en croix sur celle-ci, étalée sur la glace bleue.
« Surtout, ne vomis pas. Ne vomis pas. »
Il serait obligé d'ôter son masque pour ne pas s'étouffer sur ses vomissures, et l'atmosphère délétère le plongerait dans l'inconscience. Il mourrait ici, sans que personne sache qu'il avait réussi à grimper à la corde une hauteur de 25 mètres, voire davantage. Lui, ce gros lard de Daiman, le chouchou à sa maman, qui n'arrivait même pas à escalader les tours de Bucky Carbone. Quelque temps plus tard, il reprit connaissance et s'ordonna de se remuer. Il attrapa son arbalète, vérifia qu'elle était chargée et armée. Il jeta un coup d'œil à l'œuf, un peu plus lumineux mais toujours en un seul morceau. Il passa ses marteaux piolets à sa ceinture et hissa la corde de 30 mètres. Elle était ridiculement lourde. Il ne tarda pas à se perdre. Le soir tombait lors de son arrivée, de sorte que les tunnels étaient encore un peu éclairés, mais il faisait à présent nuit noire et le seul éclairage était celui des décharges électriques qui parcouraient le tissu autour de lui. Daiman était de plus en plus persuadé que cette glace bleue était une matière organique, participant de l'essence de cet ébos. Il avait pris la précaution de laisser à chaque croisement des rubans jaunes en guise de repère, mais il en loupa un et se retrouva en train de ramper dans des tunnels qui lui étaient inconnus. Plutôt que de rebrousser chemin, le boyau dans lequel il progressait était trop étroit et il ne tenait pas à ramper à reculons, il choisit un embranchement qui semblait monter et s'y engagea. Il dut faire demi-tour à deux reprises, tombant sur un cul-de-sac et sur un puits. Puis le boyau où il se trouvait s'élargit et entama une pente ascendante, et ce fut avec un profond soulagement qu'il se mit à marcher debout, veillant à ne pas glisser et tenant l'arbalète à la main. Soudain, il fit halte et retint son souffle. Devant lui se trouvaient deux croisements, respectivement à 3 et 10 mètres de distance, et un grattement sourd montait de l'un des tunnels. « Les Calibani », songea-t-il, sentant monter en lui une terreur aussi glacée que l'espace interplanétaire. Puis il lui vint une autre idée, plus terrifiante encore. Une main. C'était bien une main. Longue de plus de 2 mètres, épaisse en son milieu, avançant grâce à des ongles pareils à des lames d'acier, avec des poils barbelés poussant sur ses chairs grises, la main frémissante émergea à 3 mètres de Daiman et fit halte, se soulevant pour révéler sa paume au centre de laquelle un orifice s'ouvrait et se refermait sans cesse. « C'est moi qu'elle cherche », se dit Daiman qui n'osait plus se remettre à respirer. « Elle capte ma chaleur. » Il ne bougea pas d'un pouce, ne songeant même pas à lever son arbalète. Tout dépendait de sa vieille thermopompe en si piteux état. S'il émettait un iota de chaleur, la main allait fondre sur lui d'un instant à l'autre. Daiman tourna son visage vers le sol, non sous l'effet de la peur, mais au cas où son masque osmotique aurait eu des fuites. Il entendit un grattement vif et, en relevant les yeux, vit que la main s'était engagée dans un tunnel sur sa droite. Le tentacule charnu s'avança dans le boyau, bloquant en grande partie le croisement. « Que je sois damné si je rebrousse chemin !» Daiman progressa à pas de loup. Le tentacule continuait d'avancer. Il avait dû en défiler une bonne centaine de mètres, mais ce n'était toujours pas fini. Daiman n'entendait plus les grattements produits par la main. Sans doute qu'elle a contourné ma position pour me prendre à revers.
« Écoutez ! Un éclair blanc, un arbre qui se fend, et là, 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 son tonnerre qui hurle ! Folie que de lui faire offrande ! Voyez ! Prosternez-vous et aimez cette bosse !»
La voix de Caliban était étouffée par la glace et la distance, mais elle se dirigeait vers lui. Arrivé à quelques centimètres du tentacule, Daiman soupesa ses chances. Le tunnel choisi par la main était large d'1,80 m et haut d'autant. Le tentacule l'occupait sur toute sa largeur, mais il était considérablement aplati, de sorte qu'il restait un peu moins d'1 mètre d'espace au-dessus de lui. Derrière l'obstacle, le passage que visait Daiman s'élargissait et continuait son ascension. Il crut sentir un courant d'air frais venu du dehors. Peut-être n'était-il qu'à quelques dizaines de mètres de la surface.
Comment franchir cet obstacle ?
Il envisagea d'utiliser les marteaux-piolets. Non, jamais il ne pourrait se déplacer sur le plafond. Il envisagea de retourner dans ce labyrinthe où il avait erré des heures durant, mais il chassa cette idée de son esprit. Peut-être que je vais voir le bout de ce tentacule. Cette divagation lui fit prendre conscience de sa fatigue. Le tentacule prenait naissance dans la masse de cet ébos à plus d'un kilomètre de là, au centre du cratère.
Il va fourrer ses mains et ses tentacules dans tous les tunnels. C'est moi qu'il recherche.
Il remarqua distraitement que la panique avait un goût de sang. Puis il s'aperçut qu'il s'était mordu la joue à la déchirer. Son palais s'emplit de sang, mais il n'avait pas le temps d'ôter le masque pour le cracher, aussi l'avala-t-il.
Au diable !
Après s'être assuré que le cran de sécurité était bloqué, il lança l'arbalète de l'autre côté du tentacule. Elle effleura la chair grise et visqueuse, puis glissa quelques mètres sur la glace. Le sac à dos présenta d'autres difficultés.
Il va se casser. L'œuf va se casser et libérer son contenu lumineux. Ce truc est encore plus brillant, j'en suis sûr. et je vais me retrouver face à l'une de ses mains, une petite main rose et non pas grise. Elle va ouvrir son orifice et pousser un hurlement strident, et la grosse main va faire demi-tour à toute allure, ou alors elle va surgir devant moi pour me coincer. Damnation !
Hurla-t-il sans plus se soucier d'être repéré. Il n'avait que mépris pour l'être lâche qu'il était, qu'il avait toujours été, le gros bébé de Marina, qui n'avait pas son pareil pour séduire les filles et attraper des papillons, mais qui ne savait rien faire d'autre. Daïman se défit de son sac à dos, protégea au mieux l'œuf qu'il contenait et le lança par-dessus le gros tentacule. Il atterrit du bon côté et glissa sans que l'œuf entre en contact avec la glace. Apparemment, il était intact. À mon tour. Se sentant tout léger à présent qu'il était débarrassé de son fardeau, il recula d'une dizaine de mètres pour prendre son élan, puis piqua un sprint avant d'avoir eu le temps de changer d'avis. Il faillit glisser, mais ses bottes trouvèrent une prise et il arriva devant l'obstacle à une allure plus que correcte. Sa cagoule effleura le plafond du tunnel lorsqu'il sauta, les bras tendus devant lui, les jambes relevées au maximum, mais il sentit ses bottes toucher l'épais tentacule mouvant. « Fais attention de ne pas te recevoir sur le sac !» Et il atterrit sur les mains, boula vers l'avant, s'écrasa sur le sol, le souffle coupé, passa sur l'arbalète, heureusement qu'il avait pensé à bloquer le cran de sécurité. Derrière lui, le tentacule cessa d'avancer. Sans même reprendre son souffle, Daïman ramassa arbalète et sac à dos et courut vers l'air frais, vers les ténèbres du dehors. Il émergea dans la fraîcheur de l'air nocturne, quelques centaines de mètres au sud de la ravine de l'île de la Cité qui lui avait permis d'accéder au dôme. Pas le moindre signe de main ni de calibanie dans la clarté glaciale dispensée par les étoiles et les décharges parcourant la glace bleue. Daïman ôta son masque osmotique et aspira l'air frais à grandes goulées. Il n'était pas encore tiré d'affaire. Le sac à dos calé en place et l'arbalète au poing, il s'engagea dans la ravine, débouchant sur un cul-de-sac à peu près au niveau de l'île Saint-Louis. À sa droite, une paroi de glace, à sa gauche, des tunnels. Pas question d'emprunter un tunnel. Sentant ses bras tressaillir d'avance, Daïman empoigna les marteaux piolets passés à sa ceinture, en planta un dans le mur de glace bleu et entama son escalade. 2 heures plus tard, il était complètement perdu. Il s'orientait grâce aux étoiles, aux anneaux et aux quelques bâtiments qui émergeaient de la glace ou dont les ombres se dressaient au fond des crevasses. Initialement persuadé de suivre un chemin parallèle à l'avenue Doménil, il devait maintenant se rendre à l'évidence. Devant lui s'étendait un gouffre de ténèbres sans le moindre point de repère visible. Il s'allongea à plat ventre près du bord du précipice, sentant l'œuf bouger dans son sac comme s'il allait éclore et s'obligea à ne pas sangloter. Il avait entendu des grattements monter de tous les tunnels qu'il avait vus sur sa route. Les mains ne l'avaient pas lâché. Il n'en avait vu aucune courant sur la masse glaciaire proprement dite, mais la lumière éblouissante qui montait à présent du dôme trahissait l'agitation de cette ébauche. Papa veut récupérer son œuf. Papa ? Daïman refoula le rire qui montait à ses lèvres de crainte de sombrer dans l'hystérie. Quelque chose accrocha son regard au bord de l'abîme sans fond. Daïman se hissa sur les coudes pour s'avancer un peu. Un ruban jaune accroché à un clou. C'était la cheminée de glace, distante de 150 mètres à peine du nœud fax du Gare de Lyon, de son point d'entrée à Paris-Cratère. Pleurant sans honte, il planta dans la glace le dernier de ses pitons, y attacha solidement la corde, sans prendre la peine d'utiliser un nœud de rappel qui lui aurait permis de la récupérer une fois en bas, et d'un bond plein de souplesse, commença à se laisser glisser dans les ténèbres. Abandonnant sa corde derrière lui, il parcourut les 100 derniers mètres en rampant et en titubant. Un dernier croisement, une dernière balise, une brève reptation, et il se retrouva dans le pavillon fax du Gare de Lyon, où il pouvait se tenir debout sur un sol bien concret. La console fax émettait une douce lueur au centre de la plateforme circulaire. Une forme nue le frappa au flanc, l'envoyant glisser sur le sol tandis que son arbalète atterrissait sur le carrelage. La créature, Caliban ou un Calibani, impossible de le dire dans cette pénombre bleue, enserra la gorge de Daïman dans ses doigts longilignes alors même qu'elle tendait vers son visage des crocs jaunâtres. Daïman roula sur lui-même pour tenter de s'en défaire, mais le monstre avait refermé ses jambes sur lui et s'accrochait de ses orteils préhensibles, tandis que ses mains puissantes et ses longs bras ne restaient pas oisifs. L'œuf ! Daïman s'efforça de ne pas atterrir sur le dos lorsque les deux antagonistes emboutirent le socle de la plateforme fax. Il se retrouva libre de ses mouvements et en profita pour se jeter sur l'arbalète, qui avait arrêté sa course contre un mur. poussant un grondement, le monstre amphibien l'empoigna et le jeta sauvagement contre la glace. Ses yeux et ses crocs jaunes luisaient dans la pénombre bleue. Daïman avait déjà affronté Caliban, et cette créature n'était pas Caliban. Plus petite, un peu moins forte, un peu moins rapide. Elle était tout aussi redoutable. Ses crocs claquèrent à quelques centimètres des yeux de Daïman. Celui-ci glissa son poing sous le menton du Calibani et appuya de toutes ses forces, repoussant la face écailleuse, au nez plat, aux yeux jaunes et furibonds. Il sentit une montée d'adrénaline suppléer à ses forces défaillantes et tenta de briser l'échine de la chose au niveau des cervicales. Vif comme un serpent, le Calibani échappa à sa prise et lui trancha deux doigts de la main gauche. Daïman hurla et s'écarta. Le Calibani ouvrit les bras en grand, prit le temps d'avaler annulaire et auriculaire et bondit. Saisissant l'arbalète de la main droite, Daïman tira deux carreaux sans même viser. Projeté en arrière, le Calibani se retrouva cloué à la paroi de glace, un premier carreau barbelé planté dans son épaule et un second dans la paume de sa main, qu'il avait ramené près de son visage. La créature se convulsa, se contorsionna, gronda et délogea le second carreau. Daïman y alla de son propre hurlement. Se levant d'un bond, il saisit le couteau passé à sa ceinture et le planta dans la gorge du Calibani, la lame tournée vers le haut pour lui percer le palais et atteindre la cervelle. Puis il se colla de tout son long contre la créature, pareil à un amant empressé, et remua la lame dans la plaie, encore, encore et encore, ne s'arrêtant que lorsque l'obscène chose eut cessé de se débattre. Il retomba sur le sol, serrant contre lui sa main mutilée. Aussi incroyable que cela paraisse, elle ne saignait pas. La thermopeau s'était refermée autour des moignons, mais il avait une violente envie de vomir. Comme rien ne l'en empêchait, il ne s'en priva pas, et il se retrouva plié en deux à se vider jusqu'à épuisement. Il entendit un grattement provenant de l'un ou l'autre des tunnels devant lui. Daïman se leva, arracha le couteau de la gorge du Calibani, celui-ci s'affaissa doucement mais le carreau planté dans son épaule le maintint en place, ramassa le second carreau par terre, ramassa son arbalète et se dirigea vers la plateforme Fax. Quelque chose émergea d'un tunnel soudain illuminé. Il faisait grand jour au-dessus du pavillon Fax d'Ardis. Daïman s'éloigna en titubant, attrapa un carreau dans son sac et arma l'arbalète, s'aidant de son pied pour actionner le mécanisme. Il visa la plateforme et attendit. Rien ne le suivit. Au bout d'une minute, il abaissa son arme et s'avança au soleil. Apparemment, on était en début d'après-midi. Il n'y avait pas une sentinelle dans les parages. La palissade était défoncée en une douzaine de points. Une vingtaine de Voynix gisaient tout autour du pavillon, mais on ne percevait aucun signe des gardes humains, hormis les traces de pas et les traînées de sang qui s'éloignaient en direction de la forêt. La main de Daïman était si endolorie que la totalité de son corps n'était plus que la chambre d'écho de sa souffrance. Mais il la cala contre son torse, logea un second carreau dans l'arbalète et se dirigea vers la route. Moins de 2 kilomètres le séparaient du château d'Ardis. Le château d'Ardis n'était plus. Daïman avait effectué une approche des plus circonspectes, quittant la route pour s'enfoncer dans la forêt, allant jusqu'à avancer dans le lit du ruisseau en amont du pont. Il était arrivé par le nord-est, préférant alarmer les sentinelles plutôt que de risquer une attaque de Voynix. Les sentinelles brillaient par leur absence. Il passa une demi-heure tapis à la lisière de la forêt, aux aguets. Rien ne bougeait, excepté les pies et les corbeaux qui se repaissaient des cadavres humains. Il se mit à courir vers la gauche, se rapprochant au maximum des baraquements et de la porte est, avant d'émerger de l'abri des arbres. Une centaine de brèches étaient ouvertes dans la palissade. Le mur d'enceinte n'était plus qu'un souvenir. Le cubilot et la fournaise dont Anna était si fière n'étaient plus que des ruines calcinées. Les baraquements abritant la moitié de la population d'Ardis avaient succombé aux flammes. Du château proprement dit, ce splendide édifice qui avait résisté à 2000 hivers, il ne subsistait que quelques cheminées de pierre noircies par les flammes, quelques poutres également carbonisées et des tas de gravats. L'endroit empestait la fumée et la mort. L'escalier jadis majestueux était jonché de carcasses de Voynix et le perron encore plus, mais il s'y mêlait des centaines de cadavres humains. Daïman fut incapable d'identifier les morts qu'il voyait un peu partout autour des décombres calcinés. Ici, un petit cadavre racorni par le feu, d'une taille à peine adulte, et qui, en se consumant, avait pris une posture de boxeur. Et là, une cage thoracique et un crâne soigneusement nettoyé par les charognards. Et là encore, une femme gisant sur l'herbe, indemne selon toute apparence, mais dont le visage, ainsi qu'il le constata en la retournant, avait été arraché. À genoux au sein de ce charnier glacial, Daemon s'efforça de pleurer. Incapable de verser une larme, il se résigna à mouliner des bras, tentative pitoyable pour chasser les gros corbeaux et les pies bondissantes dont l'appétit semblait sans limite. Le soleil se couchait. La lumière fuyait le ciel. Daemon se releva pour contempler les corps autour de lui. Certains semblaient empilés sur le sol comme des paquets de linge sale. D'autres gisaient seuls, d'autres encore s'étaient regroupés comme pour se soutenir mutuellement. Il devait trouver Ada. L'identifier et l'inhumer, elle et le maximum de ses amis, avant de tenter de regagner le pavillon Fax. Mais où irais-je? Dans quelle communauté pourrais-je me réfugier? Avant d'avoir pu répondre à cette question, avant même d'avoir examiné un premier cadavre dans la pénombre montante, il perçut un mouvement à la lisière de la forêt. Il crut d'abord que les survivants du massacre émergeaient de leur refuge, mais alors même qu'il levait sa main valide pour les saluer, il aperçut un reflet sur des carapaces grises et comprit qu'il se trompait. 30, 60. Une centaine de Voynix sortaient de la forêt pour se diriger vers lui, et il en arrivait aussi sur sa droite et sur sa gauche. Trop harassé pour courir, Daemon se dirigea en soupirant vers le sud-ouest, puis vit un mouvement de ce côté-là. Des Voynix qui surgissaient des ténèbres. Des Voynix qui descendaient des arbres et s'avançaient à quatre pattes. Dans quelques secondes, il serait sur lui. Il ne lui servirait à rien de contourner les ruines fumantes du château pour filer par le nord. D'autres Voynix l'attendraient là-bas. Daemon mit un genou à terre, remarqua distraitement que l'œuf dans son sac à dos brillait avec une intensité suffisante pour projeter son ombre devant lui, et attrapa sa réserve de carreaux. 6. Il lui en restait 6. Plus les deux déjà en place. Un horrible sourire aux lèvres, une terrible exultation dans le cœur, il se dressa de toute sa taille et pointa son arbalète sur le groupe de monstres le plus proche. Il n'était qu'à 20 mètres de lui. Autant les laisser s'approcher. Il ne leur faudrait que quelques secondes pour lui bondir dessus. Il trouva la force de caler son arbalète sur sa main mutilée. Un craquement derrière lui, tout proche. Il pivota sur ses talons, prêt à tirer. Mais c'était le Sony qui arrivait à l'ouest en faisant du rasmote. Les deux passagers des couchettes arrière laissaient parler leurs fusils à fléchette. Tous les Voynix qui bondissaient vers l'appareil retombaient le corps criblé de traits.
« Monte !»
hurla Gréogie alors que le Sony arrivait à son niveau. Les Voynix attaquèrent en masse, bondissant dans les airs tels de gigantesques sauterelles d'argent. Un homme que Daemon identifia comme Bowman et une femme en laquelle il reconnut Edith, elle avait fait partie de son équipe de 10 émissaires, arrosaient les créatures de leurs fusils réglés en mode automatique, faisant pleuvoir sur elles une grêle de cristaux.
« Monte !»
répéta Gréogie. Daemon s'ébroua, ramassa son sac à dos, le lança à bord de l'appareil, fit suivre son arbalète et sauta à son tour. Le Sony prit aussitôt de l'altitude. Il avait raté son coup. Sa main valide trouva une prise sur le cuir d'une couchette, mais sa main mutilée heurta la coque métallique et sous le choc, il lâcha prise et glissa vers la masse silencieuse et impatiente des Voynix. Bowman lui empoigna le bras et le tira vers lui. Un Daemon muet d'épuisement à son bord, le Sony fila au nord-est, survolant la forêt à plusieurs milliers de mètres d'altitude et achevant sa course au-dessus d'un rocher dénudé qui se dressait 60 mètres au-dessus des arbres squelettiques. Daemon avait découvert ce bloc de granit des années plus tôt, lors de sa première visite au château d'Ardis. Ada l'avait accompagné à la chasse aux papillons et à l'issue d'un long après-midi de promenade, elle lui avait désigné le monolithe visible au-dessus des taillis, par-delà la forêt.
« Le rocher aux affamés !»
avait-elle déclaré non sans fierté de sa voix juvénile.
« D'où vient ce nom ?»
La jeune Ada avait haussé les épaules en signe d'ignorance.
« Tu veux qu'on l'escalade ?»
avait-il proposé, se voyant déjà en train de la séduire sur un sommet à l'herbe accueillante. Ada avait éclaté de rire.
« Personne ne peut escalader le rocher aux affamés !»
Les derniers feux du couchant et la lueur naissante des anneaux permirent à Daemon d'examiner le refuge. Là où il s'était attendu à découvrir un tapis d'herbe, Il y avait une plaque rocheuse d'une trentaine de mètres de long, avec ça et là quelques irrégularités, où brûlait une demi-douzaine de feux de camp. Des silhouettes sombres se blottissaient sur les toiles goudronnées entourant ces foyers, d'autres se dressaient un peu partout au bord du précipice. Des sentinelles à n'en pas douter. Le terrain en contrebas semblait mouvant. Non, il était mouvant. Les Voynix y grouillaient par milliers, piétinant en silence les carcasses de leurs semblables abattus. « Combien de survivants ?» demanda Daeman alors que Gréogy entamait son approche.
« Une cinquantaine !» répondit le pilote.
À la lumière des commandes virtuelles, son visage strié de suie semblait empreint d'une lassitude infinie.
« Une cinquantaine, sur 400 et quelques !» se dit Daeman, incapable d'y croire.
Il se rendit compte qu'il était encore sous le choc de sa mutilation, et le spectacle qu'il avait découvert à Ardis n'avait rien pour arranger son état. L'engourdissement qui gagnait son esprit n'était pas pour autant désagréable.
« Ada ?» dit-il d'une voix hésitante. « Elle est vivante !» répondit Gréogy. « Mais ça fait presque 24 heures qu'elle n'a pas repris conscience. Le château était en flammes, et elle refusait de l'évacuer tant qu'il y restait encore quelqu'un. Et je crois qu'elle aurait encore refusé de partir si le toit où elle se trouvait ne s'était pas effondré en partie. » Elle a été assommée par une poutre et nous ne savons pas si son bébé va s'en sortir.
Bétir? Rayman?
Daeman se demandait qui allait prendre le commandement si Arman était porté manquant et Ada invalide.
Morts, tous les deux.
Gréogy s'approcha en douceur du sommet de granit. Le Sony atterrit après un petit rebond. Des silhouettes blotties autour d'un feu de camp se levèrent pour les rejoindre.
Pourquoi êtes-vous resté ici?
Demanda Daeman en empoignant Gréogy par le col de sa chemise, tandis que les autres passagers descendaient.
« Pourquoi êtes-vous resté à proximité de cette armée de Voynix ?»
Gréogy se dégagea avec douceur.
« Nous avons tenté de nous faxer, mais les Voynix nous sont tombés dessus avant qu'on ait pu entrer dans le pavillon. Nous avons perdu 4 camarades avant de pouvoir nous replier. Et nous n'avons nulle part où aller. Nous comptons une douzaine de blessés graves, Ada y compris, et nous n'aurions pas le temps de les évacuer sans nous faire déborder par les Voynix. » On a besoin de toutes les personnes valides pour les repousser. Si nous commençons à évacuer des gens à bord du Sony, ceux qui resteront ici n'auront aucune chance. De toute façon, nous n'avons sûrement pas assez de fléchettes pour tenir une nuit de plus.
Daeman parcourut les lieux du regard. Les feux de camp étaient pitoyables. En guise de combustible, il fallait se contenter de lichen, de mousse et de brindilles. L'objet le plus lumineux du plateau rocheux n'était autre que l'œuf de Cétébos dans son sac à dos.
« On en est vraiment arrivé là ?» demanda-t-il en grande partie pour lui-même.
« Il le semble bien, »
répondit Gréogy qui descendit de sa couchette en titubant, visiblement mort d'épuisement.
« Il fait noir maintenant. Les Voynix vont donner l'assaut dans quelques minutes.